France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Pierre Musso.
Bonsoir Zoé Svez.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes là pourquoi ? Eh bien parce que vous avez coécrit un livre avec Jean-Louis Missika. Vous-même, vous travaillez à la ville de Paris. Vous êtes, vous m'avez dit, un fonctionnaire d'État détaché au service de la ville de Paris, où vous conseillez Jean-Louis Missika sur les sujets de ville intelligente et durable. Jean-Louis Missika, qui est, s'il faut le rappeler, adjoint à la maire de Paris en charge de l'urbanisme, de l'architecture et du Grand Paris, notamment. On l'avait déjà évidemment entendu ici sur ces questions-là. Et tous les deux, donc, vous co-signez ce livre des robots dans la ville, comment les voitures autonomes vont changer nos vies. Et l'espèce, c'est le sous-titre officiel, mais le deuxième sous-titre pourrait être « Et comment la ville va changer ? Et que peut faire la ville face à ces véhicules autonomes ?» C'est un petit peu l'enjeu de ce livre. Alors, on avait consacré une très large émission aux véhicules autonomes dans la dernière saison de Soft Power. C'était notre dernière émission de la saison, parce qu'on se disait que c'était le futur. C'est un livre extrêmement dense, plein d'énormément de références, et notamment... on a certains termes qui reviennent de manière très récurrente, évidemment celui de voiture autonome, celui de taxi robot, celui de free floating, celui de l'économie du partage. Peut-être une première question justement sur cette logique de la voiture autonome. On parle de voiture intelligente puis connectée, à terme de voiture autonome. Vous travaillez sur ces questions depuis longtemps, vous étiez notamment à l'ADEME, je crois, l'agence pour
l'environnement et la maîtrise de l'énergie.
Dans ce livre, quand on parle de voiture autonome, on parle de quoi ?
Alors, dans ce livre, on parle de la technologie d'aide à la conduite jusqu'au nouveau cas d'usage que vont permettre ces solutions technologiques. Et ça va être potentiellement des robots dans toutes les fonctions urbaines de la ville. Mais les premiers auxquels on pense, évidemment, c'est des usages pour se déplacer. C'est des usages, comme vous le disiez, de taxi-robots qui sont aujourd'hui expérimentés déjà par des sociétés en Californie, en plusieurs villes aux États-Unis, en Chine et aussi en France. On teste déjà des taxis-robots, alors toujours avec des personnes à bord pour reprendre le volant à tout moment. Mais c'est des premiers cas d'usage sur lesquels, à la ville de Paris, on veut travailler aussi. Les premiers qu'on a expérimentés, ce sont des navettes autonomes
qui roulent très très lentement pour le moment.
Voilà, qui ont des autorisations pour rouler qui sont limitées encore à 10 km/h, donc effectivement c'est lent, mais ça permet déjà de faire comprendre ce que c'est cette technologie, de la faire expérimenter par beaucoup de gens. Quand on le fait à Paris, on a rapidement plusieurs dizaines de milliers de personnes qui viennent la tester. C'est le cas pour celle qui est expérimentée depuis un an à Château de Vincennes et qui a déjà reçu 30 000 passagers qui découvrent ce que c'est aujourd'hui rouler dans un robot. Alors, il y a toujours une personne à bord, mais c'est une première expérience et il y a d'autres cas d'usage qui vont arriver très bientôt dans nos villes.
Alors, dans nos villes, il y en a évidemment qui existent déjà beaucoup aux États-Unis, qui existent déjà aussi notamment au Japon. Vous parlez notamment d'une expérience avec des robots, je crois, au Japon. Des robots, des camions qui seront à la fois des bus, à la fois des magasins de chaussures. On pourra peut-être, si on pousse le raisonnement très loin, non seulement un jour être transporté par un robot, mais en plus être transporté tout en faisant quelque chose, en mangeant si on a besoin de manger sur le trajet, en achetant des chaussures ou en se faisant couper les cheveux. En parallèle de cette question de la voiture autonome, il y a la question du free floating. Est-ce que vous pouvez m'expliquer de quoi on parle quand on parle de free floating ?
Alors, dans ce livre, en fait, on parle de toutes les révolutions des mobilités et le free floating en fait partie. C'est une révolution très récente qu'on a découvert il y a pratiquement un an. Ça veut dire, on essaye de le traduire en français par libre flotte. C'est finalement des vélos, des trottinettes, des scooters en libre service qui n'ont plus besoin de station aujourd'hui pour se garer et qui vont aussi concerner les voitures. On est en train de démarrer les premiers services de free-floating de voitures à Paris, de voitures électriques, qui présagent l'avenir de ce que sera le taxi-robot.
Donc c'est un peu la fin, si vous voulez, de l'autonomie, mais il n'y a plus la borne, en fait, c'est ça le principe.
Il n'y a plus la borne, il n'y a plus besoin de borne. Aujourd'hui, les modèles numériques des plateformes permettent d'organiser autrement les services de mobilité, mais c'est sans poser de... Enfin, ça pose un certain nombre de questions d'occupation du domaine public. On le sait, avec les vélos et les trottinettes qu'on voit sur les... les rues de Paris et dans de plus en plus de villes qui sont pas toujours très bien stationnées. Alors on travaille avec les opérateurs pour l'organiser. Ça va poser beaucoup de questions demain. Enfin, ça pose de plus en plus de questions dès aujourd'hui, dès lors que des opérateurs sous forme de plateformes numériques investissent les villes avec plusieurs milliers, dizaines de milliers de véhicules sans régulation. Donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut réguler ça dès aujourd'hui avec les services de mobilité qui sont déjà arrivés dans nos villes et comment on doit se préparer à des services de mobilité qui ont vocation à se généraliser.
Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, la question que vous posez, c'est la question de la régulation. Dans tout le premier chapitre, qui est effectivement très exhaustif, vous parlez de ce dont on a parlé dans nos émissions, avec tous les enjeux d'éthique, de perfection technologique sur la voiture autonome. Mais au-delà de ça, la question, c'est celle de la régulation. Vous citez dans ce livre plusieurs d'autre part, d'une part, études sur ce qui se passe déjà et des prospectives aussi sur ce qui pourrait se passer, ce qui se passera demain si on arrive vraiment à une voiture autonome. Alors évidemment, vous débattez aussi de cette fameuse, le tout autonome. Quand c'est, est-ce que c'est en 2030, est-ce que c'est en 2040, est-ce que c'est en 2050? Mais si on pousse un peu la logique un peu plus loin, si on regarde ce qui pourrait se passer dans 20 ans, dans 30 ans, quelles seraient les conséquences d'un monde et surtout de villes où beaucoup, en tout cas beaucoup, et on va voir pourquoi, de véhicules seraient autonomes? Est-ce que des transports en commun survivraient? Faut-il qu'ils survivent? C'est quoi les grandes lignes de ce qu'on voit quand on regarde un petit peu la littérature en la matière?
Alors la première chose, c'est qu'on pense que la révolution va être similaire à celle qu'on a connue entre le passage de la voiture à cheval à l'automobile. Ça a radicalement transformé nos villes, et pas forcément pour le meilleur, puisque on a adapté la ville à la voiture et non le contraire. Donc le risque, c'est que ça se passe de la même manière et que la ville doit s'adapter à des véhicules aux robots qui vont circuler. Mais on peut potentiellement inverser cette situation et chercher à organiser la ville pour que les robots se circulent dans la ville de manière à favoriser ce qu'on a envie dans nos villes, c'est-à-dire de continuer à circuler à pied, à vélo, et avoir une meilleure cohabitation, un meilleur partage de l'espace public. C'est un des enjeux de cette régulation. Aujourd'hui, En fait, l'avenir, on peut le regarder en analysant ce qui se passe avec le développement des plateformes numériques de VTC. On cite les études à New York ou dans Manhattan. On voit bien que les VTC, que ce soit des plateformes comme Uber, Lyft ou Didi, sont en train d'augmenter drastiquement la congestion dans le cœur de ville. À Paris, on n'a pas les données. Donc on ne sait pas à quel point, on n'est pas capable de dire à quel point ça augmente la congestion dans le cœur de Paris, mais on soupçonne que c'est un véritable impact, ou la logistique du dernier kilomètre avec le développement du e-commerce. Ces nouvelles plateformes numériques ont des impacts qu'on devrait dès maintenant chercher à réguler, et c'est très intéressant de regarder ce que le véhicule autonome va permettre pour anticiper maintenant des outils de régulation.
Parce que pour faire un petit rappel, en effet, on a des chiffres aux États-Unis où en fait, alors que les plateformes de VTC mettent en valeur le partage, on met en valeur le fait qu'elles sont plus écologiques parce qu'il y a de plus en plus de véhicules verts, et bien il y a de plus en plus aussi de gens qui tournent en attendant leur course et donc qui congestionnent le trajet dans la ville. Alors si tous ces gens-là, si à la fin on se retrouve avec des véhicules autonomes, y compris des véhicules ce qu'on appellerait les taxis robots, donc qui seraient aujourd'hui le chauffeur Uber, mais sans le Uber, il y a une conséquence notamment à laquelle on pense pas nécessairement, mais ce sera probablement l'effondrement du coût d'un trajet en taxi, en robot.
C'est une hypothèse qui est discutée, parce que aujourd'hui les technologies sont encore très chères. Si on équipe des véhicules actuels avec plusieurs systèmes de capteurs au prix où ils sont encore aujourd'hui, ça fait des véhicules très très chers, mais on anticipe une baisse drastique du coût. Et effectivement, un système de transport qui pourra, avec des taxis robots, avoir des coûts réellement plus bas.
Donc c'est vrai que tout le monde d'un coup pourrait potentiellement se dire, mais en fait moi je vais me déplacer uniquement en taxi robot. Plus besoin de transport en commun si ça coûte 1 euro.
Tout à fait. C'est un risque, et effectivement, si ces véhicules circulent sans arrêt, voire à vide, là où tout le monde veut aller, dans les cœurs de ville en particulier, ça va être un réel danger pour l'organisation de nos villes. Donc il faut y l'anticiper. New York est intéressant parce que en août, suite aux études que je citais et qui montraient l'impact de la congestion liée au VTC, ils ont décidé de remettre des quotas sur les VTC. Est-ce la bonne solution? C'est pas sûr, parce que l'intérêt du véhicule autonome, et déjà des VTC, c'est de pouvoir desservir une plus longue, de plus grande zone aujourd'hui dans les agglomérations. Donc il faut réfléchir à une organisation de ces transports de manière à ce que ça puisse continuer à améliorer le service de mobilité et finalement à élargir, à réinventer les transports en commun.
Une dernière question sur ce sujet extrêmement dense. Vous concluez aussi avec un chapitre 5 qui s'appelle « Pour une diplomatie des villes ». On l'a vu, les États ont énormément de mal aussi à adresser à la fois les géants de ces plateformes et ces questions-là. Et vous militez, on est à la ville de Paris, pour un rôle accru des villes. Qu'est-ce qu'elles peuvent, les villes, aujourd'hui, concrètement?
Alors, la ville de Paris est déjà impliquée dans cette diplomatie internationale. La maire de Paris est présidente du C40, du Club des villes engagées dans la lutte contre le changement climatique. Et c'est un des réseaux qui, aujourd'hui, pose la question de la place du véhicule autonome. Comment le véhicule autonome peut participer à nos ambitions climatiques? Donc l'objectif, c'est de partager avec les villes, comme on a déjà commencé à le faire, des engagements, comme la sortie du diesel, par exemple. Et demain, de travailler sur des outils partagés pour organiser le véhicule autonome dans nos villes.
Bon, écoutez, merci beaucoup Pierre Musso. Je rappelle quand même que ce livre donc s'appelle « Des robots dans la ville ». Il y a une bibliographie extrêmement riche. Et dans votre conclusion, vous appelez surtout à ce que tous les candidats, à la fois aux municipales et aux européennes, en fait, prennent position sur ces questions des véhicules autonomes en disant « En fait, il faut qu'on commence à en parler puisque tout ça est quand même très, très proche ». Merci beaucoup. Donc, Pierre Musso, auteur avec Jean-Louis Messica de ce livre paru aux éditions Taillandier, « Des robots dans la ville ».
Merci infiniment à vous, Zoé Sfez, avec votre invité ce soir, Pierre Musso. Le temps de vous recommander un livre, petit clin d'œil numérique, du moins si vous lisez l'italien, Confessione di un NEET, ça s'écrit N-E-E-T, c'est d'ailleurs un anglicisme. L'ouvrage est signé Sandro Frizziero, il vient de sortir et connaît le succès en Italie. Qu'est-ce qu'un NEET, N-E-E-T, Not in Education, Employment or Training? Un NEET, c'est un jeune qui ne travaille pas, ne va plus à l'école, il passe ses journées chez lui, ou mieux, dans sa chambre, chez ses parents, ne quittant pas son ordinateur ni internet. C'est un geek d'une certaine manière ou un otaku qui fait la grève à la vie scolaire et professionnelle, un petit Rimbaud, un peu époque mauvais sang. Si ça vous rappelle votre fils, eh bien lisez peut-être ce livre en italien, en tout cas si vous lisez l'italien. Sandro Frizziero, Confessione di un NEET, vient de paraître en italien chez Fazzi.